Octave Usanne, la correspondance d'amour, ses subtilités et ses vils maléfices. En écrivant à ce qu'on aime, déclarait Jean-Jacques Rousseau, qui certes ne pouvait prévoir les petits bleus et les cartes postales, ce ne sont plus des lettres que l'on compose, ce sont des hymnes. L'emphatique citoyen de Genève est parvenu à affirmer cette opinion en publiant le fameux recueil de la Nouvelle Héloïse, dont le style déclamatoire, l'allure ampoulée de l'expression des sentiments, aussi guindée dans la passion que dans la vertu, sont entièrement contraires à la nature et ne recèlent que trop bien, même aux amants, que la fiction imaginaire ne possédera jamais l'admirable spontanéité et le mouvement extraordinaire des grandes amours vécues. Le véritable style passionnel vient du cœur. Sa sublimité réside le plus souvent dans la puissante simplicité des expressions et dans l'émotion qui se dégage de l'imprévu des mots et de la sereine naïveté de tour de phrase. Les vraies amoureuses ont un naturel et surprenant génie épistolaire qui n'a rien de nouveau, qui n'a rien de convenu, rien d'appris, rien même de suggéré, mais qui semble inné chez toutes celles dont la passion a mis le cœur en l'initiation. Elle ne quitte jamais ce naturel qui, d'après Madame de Sévigné, concourt mieux que tout à la perfection du style. Mais pour peu que l'éducation ait affiné leur esprit d'origine et que leurs sentiments soient d'accord avec les lexiques, elles paraissent tremper leurs plumes dans l'iris de l'arc-en-ciel et diaprer leurs phrases avec de la poussière d'ailes de papillon. Elles ont surtout la légèreté, la grâce, le primesaut, l'ingéniosité de l'expression. Elles apportent dans leur façon d'écrire nombre d'incorrections, pleines de saveurs, et aussi des fautes mignonnes qui séduisent encore davantage par leur mutinerie contre la grammaire et les principes si souvent ridicules du langage. Bien qu'elle ne sacrifie qu'exceptionnellement à ce que l'argot littéraire désignait jadis du nom d'écriture artiste, elles n'en sont pas moins, lorsqu'il s'agit de casuistique amoureuse, de sentiments délicats et de subtiles sensations décrites, des épistolières captivantes qui laissent en interdit notre raison orthodoxe, notre esprit concluant et nos sens moraux épris de logique et du bien et du mal, selon Vaugelas. C'est que l'amour chez la femme apparaît comme un prodigieux magicien qui la transforme, l'élève très haut, la fait supérieure à elle-même. Rien en elle ne résiste à l'enchantement magnifique et les rayons lumineux qui se sont allumés dans son cœur éclairent toutes les pénombres de son esprit et vont jusqu'à illuminer de logique les paradoxes de sa folie métapsychique. Tout vit par le charme d'une lettre éloquente, le sentiment si peint sous les doigts d'une amante, disait le petit poète Colardeau. En effet, rien ne résiste à l'entraînement d'une lettre d'amour écrite avec une aisance et un abandon. La femme la plus simple et la plus ordinairement instruite sait, pour peu que la passion la travaille, trouver en soi des accents d'une étonnante vibration, des accouplements de mots étranges ou superbes, ainsi que des phrases émues, si poignantes dans la nudité grelottante de la misère, qu'elles sont, pour en dire le mot vrai, battre au cœur par la vigilante rigueur de la parole et par l'explosion subite des larmes qui les provoquent. Il nous suffit pour moi, nous donner de commentaires à ce sujet, de suivre chaque jour les drames passionnels du concubinage ou les romans d'adultère qui se déroulent devant des tribunaux, les présidents de chambres correctionnelles et de cours d'assises, sinon les avocats de la défense, lisent à l'audience des épîtres de pauvres filles séduites ou de femmes abandonnées, de billets d'amantes jalouses qui, en dépit de leur pauvre orthographe ou de leur défaillante syntaxe, affectent parfois une allure d'une grandeur incomparable, dont l'immensité d'expression pour peindre ce qui caractérisait la souffrance du cœur et les orages de l'âme nous surprend en raison de la simplicité des moyens et des bizarreries de la forme, souvent outrées, mais rarement banales. On se demande comment ces créatures incultes ou inélégantes d'esprit ont pu cueillir ces fleurs de style sauvage, brillantes, enflammées, de couleurs et parfumées parfois d'arômes si âpres ou si capiteux. On interroge les antécédents de cette épistolière qui ne révèle très fréquemment qu'une éducation des plus frustes, et l'on reste surpris de cette curieuse et soudaine poussée de phrases floribondes chez ces primaires où rien ne faisait prévoir une si puissante fécondation de beauté sentimentale. Le plus humble style, pensait Joubert, donne le goût du plus élevé s'il exprime la situation d'une âme grande et belle. C'est que l'amour est un grand initiateur. Il possède une baguette semblable à celle de Moïse. Il fait jaillir l'émotion des cœurs les plus naïfs et l'expression des esprits les moins ornés. Quelle que soit son origine, la femme est égale devant l'amour infiniment plus subtilement que l'homme devant la loi. Lorsque le sentiment s'exhale en l'une d'elles, il devient le grand instrument de la nature. Il la transforme, la magnifie. Elle la met en tous sens. Elle cesse alors de voir et d'entendre avec ses sens physiques. Son esprit seul a des yeux et son cœur des oreilles. Ainsi qu'une visionnaire, elle écoute les voix intérieures qui l'enchantent ou la troublent. Elle voit, elle pressent, elle devine, elle comprend. Elle ne se possède plus, mais elle est possédée. Les grandes amoureuses de toute classe trouvent dans la passion qui les domine des inspirations dont elles sont presque toujours inconscientes. Les plus cultivées les affinent davantage, ces pensées révélées qu'elles tiennent d'une seconde vue. Elles les enjolivent, les moirent de leur enjouement, les saupoudrent de malice et les revêtent à de rares intervalles des magnificences du style artificiel. Mais on ne peut nier que l'amour, ce grand sorcier niveleur, ne sert généralement dans la correspondance la tendresse toutes les filles d'Ève à la fois. Les différences d'éloquence qui se rencontrent entre les plus rustaudes et les plus délicates restent dans une certaine gamme des couleurs assez brèves à parcourir. On la peut comparer à celle qui va du rouge sanguin et violent au rose attendri, moribond, évanescent, pour parler comme un cryptographe de décadentisme. Les plus chaussons ne songent pas les moins intéressantes. Toutefois, ne songeons à envisager ici que le rose le plus fin, le plus auroral, le plus fleur de pêcher qui se puisse rencontrer dans l'irisation du style de la femme sincèrement amoureuse. Ne nous égarons pas, pour intéressante qu'elle puisse être, à notre étude, dans la horde des primitives du style passionnel. L'homme le plus ravagé par la séduction est loin de trouver en soi, épistolairement parlant, au même degré les ressources du style dont sa compagne fait un si admirable usage. Sa nature, moins souple et pénétrante, parvient très difficilement à suppléer aux défauts de l'instruction. Première, aussi, s'il n'est pas modelé par l'éducation, poli par une longue coutume de l'écriture épistolière, demeure-t-il gauche, tâtonnier et maladroit. En outre, moins porté que la femme vers la causerie par lettre, il juge qu'il lui convient d'être plus réservé, et dans la généralité des cas, une amante envoie deux épîtres à son darling pour un seul pauvre petit billet doux qui lui vient en retour. Il est en moi d'écrire comme à la fontaine de couler. Ce mot de génie de Guérin pourrait épigrapher un traité de la scriptomanie féminine. Toutes les jolies pécheresses ont un plaisir véritable à laisser trotter leur style, la bride sur le cou, à la Sévigné. Cela leur est naturel et leur vient de source édénesque, comme de parler, de sourire et de coqueter. La correspondance est, elles le savent bien, une nouvelle forme de leur séduction, un nouveau gage de leur défaillance, qu'elles donnent à l'amant ami et la prudente tradition des aïeuls. La vie même, par tant d'exemples, criait sur tous les tons. On beau crier sur tous les tons. N'écrivez jamais. Elles veulent quand même braver le danger, se compromettre, fournir à l'avenir des preuves de leurs actuelles ivresses en vertu de la crânerie qui les possède et leur fait affronter les périls de leurs inconséquences et les défaites morales de leurs coups de lait, tête. L'homme auquel la correspondance galante ou passionnée ne cause aucun dommage appréciable est cependant moins brillant à l'attaque. Et les grands épistoliers de l'amour ne sont pas dans la proportion normale des épistolières ni d'atteignent aussi fréquemment la superbe élévation morale aux magnifiques accents de celle-ci. Le séducteur vulgaire écrit peu, le sensualiste courant n'écrit pas, ou du moins il ne signe que des billets de rendez-vous, comme un sergent fourrier de ses propres plaisirs. Le gros amoureux ingénu et bébête, congestionné par son désir, ne fait que de formuler ses déclarations d'une façon niaise et vaudevillesque, en termes lourdeaux et positifs. Le féministe seul apprécie et raffine l'art de la lettre, en soupçonne toute l'immense valeur d'une intrigue habilement conduite. Il sait que la correspondance a ce charme tout particulier, puisqu'elle pénètre aisément dans les intérieurs, qu'elle se glisse comme une confidence, se décore comme une brochurette défendue, imprimée à Sybaris avec le privilège de Cupido, qu'elle se cache partout, aussi bien dans un coffret de bois de senteur qu'entre deux petits frères ennemis de Tartuffe, qui la protègent et l'embaument. Elle n'ignore pas qu'elle excite et pollue l'imagination et qu'elle est plus perfide que la parole, dit ce qu'elle veut et est utile et élue de ce qui la gêne. Elle fait rêver. C'est une traîtresse qui persuade, qui se fait mignarde dans son arrogance et vaniteuse dans sa petitesse. On couche avec elle sans pudeur, on l'embrasse, on la manie, on la caresse quand on ne la froisse pas. De là à traiter l'expéditeur de la même façon, il n'y a que la distance d'une occasion. Le féministe écrit donc beaucoup et fréquemment, non seulement à la maîtresse qu'il convoite, mais à celle qu'il possède et dont il désire consolider la conquête, en la pénétrant chaque jour davantage de sa personnalité la plus quintessentiée. Il sent tous les faits d'une lettre glissant dans une âme comme dans un rayon dans l'obscurité et réchauffant la confiance frileuse de l'amante déjà glacée par les frissons du doute. Il apporte dans ses longs billets tout le calorique de l'intimité la plus amoureuse, afin que la pauvre mignonne, dans l'absence proche ou sointaine, éprouve moins la consternation de se trouver seule après avoir été deux. Elle a, certes, emporté, à l'heure de la séparation, des paroles gardées comme des refuges contre ses accès de défaillance. Mais leur salutaire influence doit baisser, et chaque jour, ces dictames du cœur perdent de leur force persuasive. Aussi appartient-il à l'amant vigilant de venir renouveler la provision de ces tonifiantes paroles, de ces perles éthérées d'amour faites pour pénétrer en elle comme un merveilleux stimulant. Bien qu'elle ne sacrifie qu'exceptionnellement à ce que l'argot littéraire désignait jadis du nom d'écriture artiste, elle n'en sent pas moins, lorsqu'il s'agit de casuistique amoureuse, de sentiments délicats et de subtiles sensations décrites, des épistolières captivantes qui laissent en interdit notre raison orthodoxe, notre esprit concluant et nos sens moraux épris de logique et du bien et du mal, selon Vaugelas. C'est que l'amour chez la femme apparaît comme un prodigieux magicien qui la transforme, l'élève très haut, la fait supérieure à elle-même. Rien en elle ne résiste à l'enchantement magnifique. Et les rayons lumineux qui se sont allumés dans son cœur éclairent toutes les pénombres de son esprit et vont jusqu'à illuminer de logique les paradoxes de sa folie métapsychique. Tout vit par le charme d'une lettre éloquente, le sentiment si peint sous les doigts d'une amante, disait le petit poète Colardeau. En effet, rien ne résiste à l'entraînement d'une lettre d'amour écrite avec une aisance et un abandon. La femme la plus simple et la plus ordinairement instruite sait, pour peu que la passion la travaille, trouver en soi des accents d'une étonnante vibration, des accouplements de mots étranges ou superbes, ainsi que des phrases émues, si poignantes dans la nudité grelottante de la misère, qu'elles sont, pour ainsi dire le mot vrai, battre au cœur par la vigilante rigueur de la parole et par l'explosion subite des larmes qui les provoquent. Tout suffit pour moi, nous donner de commentaires à ce sujet, de suivre chaque jour les drames passionnels du concubinage ou les romans d'adultère qui se déroulent devant des tribunaux. Les présidents de chambres correctionnelles et de cours d'assises, sinon les avocats de la défense, lisent à l'audience des épîtres de pauvres filles séduites ou de femmes abandonnées, de billets d'amende jalouses qui, en dépit de leur pauvre orthographe ou de leur défaillante syntaxe, affectent parfois une allure d'une grandeur incomparable, dont l'immensité d'expression, pour peindre ce qu'est caractérisé la souffrance du cœur et les orages de l'âme, nous surprend en raison de la simplicité des moyens et des bizarreries de la forme, souvent outrées, mais rarement banales. On se demande comment ces créatures incultes ou inélégantes d'esprit ont pu cueillir ces fleurs de style sauvage, brillantes, enflammées, de couleurs et parfumées parfois d'arômes si âpres ou si capiteux. On interroge les antécédents de cette épistolière qui ne révèle très fréquemment qu'une éducation des plus frustes, et le reste surpris de cette curieuse et soudaine poussée de phrases floribondes chez ses primaires, où rien ne faisait prévoir une si puissante fécondation de beauté sentimentale. Le plus humble style, pensait Joubert, donne le goût du plus élevé s'il exprime la situation d'une âme grande et belle. C'est que l'amour est un grand initiateur. Il possède une baguette semblable à celle de Moïse, et il fait jaillir l'émotion des cœurs les plus naïfs et l'expression des esprits les moins ornés. Quelle que soit son origine, la femme est égale devant l'amour infiniment plus subtilement que l'homme devant la loi. Lorsque le sentiment s'exhale en l'une d'elles, il devient le grand instrument de la nature. Il la transforme, la magnifie et la met en tous sens. Elle cesse alors de voir et d'entendre avec ses sens physiques. Son esprit seul a des yeux et son cœur des oreilles. Ainsi qu'une visionnaire, elle écoute les voix intérieures qui l'enchantent ou la troublent. Elle voit, elle pressent, elle devine, elle comprend. Elle ne se possède plus, mais elle est possédée. Les grandes amoureuses de toute classe trouvent dans la passion qui les domine des inspirations dont elles sont presque toujours inconscientes. Les plus cultivées les affinent davantage, ces pensées révélées qu'elles tiennent d'une seconde vue. Elles les enjolivent, les moirent de leur enjouement, les saupoudrent de malice et les revêtent à de rares intervalles des magnificences du style artificiel. Mais on ne peut nier que l'amour, ce grand sorcier, niveleur, ne sert généralement dans la correspondance, la tendresse, toutes les filles d'Ève à la fois. Les différences d'éloquence qui se rencontrent entre les plus rustaudes et les plus délicates restent dans une certaine gamme des couleurs assez brèves à parcourir. On la peut comparer à celle qui va du rouge sanguin et violent au rose attendri, moribond, évanescent, pour parler comme un cryptographe de décadentisme. Les plus sauces ne songent pas les moins intéressantes. Toutefois, ne songeons à envisager ici que le rose le plus fin, le plus auroral, le plus fleur de pêcher, qui se puisse rencontrer dans l'irisation du style de la femme sincèrement amoureuse. Ne nous égarons pas, pour intéressante qu'elle puisse être, à notre étude, dans la horde des primitives du style passionnel. L'homme le plus ravagé par la séduction est loin de trouver en soi, épistolairement parlant, au même degré les ressources du style dont sa compagne fait un si admirable usage. sa nature, moins souple et pénétrante, parvient très difficilement à suppléer aux défauts de l'instruction première. Aussi, s'il n'est pas modelé par l'éducation, poli par une longue coutume de l'écriture épistolière, demeure-t-il gauche, tâtonnier et maladroit. En outre, moins porté que la femme vers la causerie par l'être, il juge qu'il lui convient d'être plus réservé, et dans la généralité des cas, une amante envoie deux épîtres à son darling pour un seul pauvre petit billet doux qui lui vient en retour. Il est en moi d'écrire comme à La Fontaine de Coulée. Ce mot d'Eugénie de Guérin pourrait épigrapher un traité de la scriptomanie féminine. Toutes les jolies pécheresses sont un plaisir véritable à laisser trotter leur style, la bride sur le cou, à la Sévigné. Cela leur est naturel et leur vient de source et d'aînesse, comme de parler, de sourire et de coqueter. La correspondance est, elles le savent bien, une nouvelle forme de leur séduction, un nouveau gage de leur défaillance, qu'elles donnent à l'amant ami et la prudente tradition des aïeuls. La vie même, par tant d'exemples, criait sur tous les tons. On peut crier sur tous les tons. N'écrivez jamais. Elles veulent quand même braver le danger, se compromettre, fournir à l'avenir des preuves de leurs actuelles ivresses en vertu de la crânerie qui les possède et leur fait affronter les périls de leurs inconséquences et les défaites morales de leurs coups de lait, tête. L'homme auquel la correspondance galante ou passionnée ne cause aucun dommage appréciable est cependant moins brillant à l'attaque. Et les grands épistoliers de l'amour ne sont pas dans la proportion normale des épistolières ni d'atteignent aussi fréquemment la superbe élévation morale aux magnifiques accents de celle-ci. Le séducteur vulgaire écrit peu. Le sensualiste courant n'écrit pas, ou du moins, il ne signe que des billets de rendez-vous, comme un sergent fourrier de ses propres plaisirs. Le grand amoureux ingénu et bébête, congestionné par son désir, ne fait que de formuler ses déclarations d'une façon niaise et vaudevillesque, en termes lourdauds et positifs. Le féministe seul apprécie et raffine l'art de la lettre, en soupçonne toute l'immense valeur d'une intrigue habilement conduite. Il sait que la correspondance a ce charme tout particulier, puisqu'elle pénètre aisément dans les intérieurs, qu'elle se glisse comme une confidence, se décore comme une brochure, brochurette défendue, imprimée à Sybaris avec le privilège de Cupido. Qu'elle se cache partout, aussi bien dans un coffret de bois de senteur qu'entre deux petits frères ennemis de Tartuffe, qui la protègent et l'embaument. Elle n'ignore pas qu'elle excite et pollue l'imagination, et qu'elle est plus perfide que la parole, dit ce qu'elle veut et élude ce qui la gêne. Elle fait rêver. C'est une traîtresse qui persuade, qui se fait mignarde dans son arrogance et vaniteuse dans sa petitesse. On couche avec elle sans pudeur, on l'embrasse, on la manie, on la caresse, quand on ne la froisse pas. De là à traiter l'expéditeur de la même façon, il n'y a que la distance d'une occasion. Le féministe écrit donc beaucoup et fréquemment, non seulement à la maîtresse qu'il convoite, mais à celle qu'il possède et dont il désire consolider la conquête, en la pénétrant chaque jour davantage de sa personnalité la plus quintessentiée. Il sent tous les faits d'une lettre glissant dans une âme comme dans un rayon dans l'obscurité et réchauffant la confiance frileuse de l'amante déjà glacée par les frissons du doute. Il apporte dans ses longs billets tout le calorique de l'intimité la plus amoureuse, afin que la pauvre mignonne, dans l'absence proche ou sointaine, éprouve moins la consternation de se trouver seule après avoir été deux. Elle a, certes, emporté, à l'heure de la séparation, des paroles gardées comme des refuges contre ses accès de défaillance. Mais leur salutaire influence doit baisser, et chaque jour, ces dictames du cœur perdent de leur force persuasive. Aussi appartient-il à l'amant vigilant de venir renouveler la provision de ces tonifiantes paroles, de ces perles éthérées d'amour faites pour pénétrer en elle comme un merveilleux stimulant. L'amant féministe est un devin qui pressent l'état moral de sa distante amie et connaît ce qu'il lui faut écrire selon qu'il veuille troubler sa quiétude depuis trop longtemps monotone et au beau fixe ou apaiser les derniers tumultes inoculés en son cœur par quelque ironie mauvaise ou quelque accent de méchante humeur apparu dans une épître antérieure. Le plus souvent, sa lettre est savoureuse à lire, pénétré de son accent des meilleurs jours, quand il parle comme il sent et qu'il écrit comme il pense. Il y met toute cette gaieté du plaisir qui glane fleurs et fruits dans ce jardin sentimental au milieu duquel il promène sa pensée, en pensée son absente chérie. Son sens délicat le rend profondément poète, c'est-à-dire coloriste autant par l'imagination que par le style. Il peut, en quelque sorte, avoir la double sensation d'admirer et de faire valoir ce qui éclate au soleil, et aussi d'apprécier et de mettre en beauté le clair-obscur, ce qui reluit dans l'ombre. Sa plume, tour à tour allègre, ardente et frétillante, s'éclaire d'allégresse et s'éclabousse de joie, et nostalgique se nuance d'une dolente et parfois vaporeuse mélancolie. Il n'est que trop peu d'hommes qui comprennent dans leur infinie délectation les joies subtiles de la correspondance amoureuse. C'est l'art de donner, de recevoir la vie à distance, de nourrir ses rêves pour satisfaire les appétits de l'avenir, de faire passer dans des phrases souples et radioactives des visions presque réelles de son soi. Cette transsubstantiation de la pensée dans toutes les colorations, ses résonances et ses formes peut réellement tenir une place primordiale dans la célébralité d'un amant sensible au mystère, au surnaturel et à la magie des mots et des passions souveraines. Mais à notre heure de postal cards, de pneumatiques, de télégraphes, de messages téléphonés, d'auto, d'aéro et de maronigrammes, combien vieux jeux paraîtront ces opinions d'un fervent arboriculteur vraiment retardataire. N'importe, poursuivons avec toutes nos convictions. Voyons plutôt du côté de la triste exilée d'amour. Quelle perplexité, quelle angoisse, quelle contrainte quand vient l'heure où le courrier arrive. cette lettre qui va lui être remise. Elle la pressent délicieusement, mais cependant avec un arrière-sentiment de vague terreur qui ne quitte jamais le fond du cœur des sensibles amantes. « Madame, une lettre !» lui dit-on. Elle saisit l'enveloppe avec un tremblement des mains qu'elle s'efforce de dissimuler, et son seul souci, dès lors, est d'obtenir la solitude absolue pour avoir la joie immense de ces feuilles dans lesquelles sentira battre à distance le cœur aimé, ce cœur qui se prête à lire, qu'on relira souvent et longtemps encore, dont il se dégagera toujours comme une ivresse semblable à celle que distillent les ténébreuses ou les muguets. Je vous aime, je vous aime et je t'aime. Ah, ces mots incandescents, elle sent qu'il la brûle et la grise sous le froid, verlin plié, cacheté, timbré et oblitéré qu'on vient de lui remettre. Et à peine est-elle seule que vite, 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 elle le lit des yeux, du cœur et des lèvres. Et souvent, leurs lèvres se donnent rendez-vous sur un rond-point de papier manuscrit. Elle s'assied, elle se lève, elle marche, elle ne tient pas en place. Elle est électrisée. Puis, s'il faut vaquer de toute nécessité à ses occupations, elle place cette chère missive dans son corsage, et tout le jour, à chacun de ses mouvements, elle sent le verger croisé se plaindre et gémir, comme pour rappeler sa présence et soupirer de désir dans son nid parfumé. Elle l'emporte le soir dans sa chambre, et là, bien solitaire, dans son lit attiédi, elle la lit encore, la relit de nouveau, cette lettre de l'aimé. Elle s'attarde à en interpréter tous les mots, à en savourer toutes les tendresses, à se griser de tous les vocables d'amour, afin d'emporter doucement, avec la douceur de leur rythme, tant de jolies phrases musicales à son cœur, dans le bercement du beau pays des songes. Elle en a toujours si grand besoin, la pauvre délaissée, de cette lumière lointaine qui paraît lui venir du ciel, car il fait bien noir, bien fumeux et bien froid dans la femme qui aime loin de son amant. Et cette pensée écrite apparaît pour elle comme l'étoile qui guide la croyante vers des buts ardemment souhaités. À ses yeux, ses buts se réduisent à l'adoration réelle et sont bornés par l'heure des retrouvailles célestes qui leur doit bientôt les jeter l'un vers l'autre, pâmés. Certes, elle est délicieuse, cette correspondance d'amour qui essaie et s'apprend comme la reste. L'essence féminin, ayant un impérieux besoin de voir et de toucher ce qu'ils adorent, la chère amante souffre de ne pouvoir ni assassier, miner par la vue, ni étreindre son doux seigneur. Et sa nervosité s'irrite parfois devant cette image flottante de l'invisible qu'elle ne peut fixer. Elle inspecte, fiévreuse, le calendrier ou les jours neutres qui les séparent, encore sont marqués de noir. Il lui semble que des mois, des années, des lustres, des siècles se sont écoulés sur elle depuis leur séparation, car les siècles pour eux, c'est hier et demain. Elle éprouve combien il est dur de réduire à la servitude une vie plate et bornée. Certains amoureux, rêveurs, de sommeil, de latitude. Ils ne peuvent rien au gré de leurs désirs. Ils croient marcher et piétinent. Ils veulent parler et ne font que bégayer. Ils veulent se prendre, s'aimer, se compter leurs amours sans lassitude. Mais ils doivent reconnaître qu'ils sont les jouets de la vie et de la mort, qu'ils sont ici-bas en une prison étroite, et que le bourreau de la vieillesse viendra les chercher, transformer, avant qu'ils aient pu se marier les flammes de leur jeunesse dans un ardent foyer solitaire qui les eut délicieusement consumés. Tous les dépits de la vie se heurtent dans l'âme de cette pitoyable absence. Même lorsqu'on est sûr de son amant, elle est heureuse toutefois, comme peuvent être les vibrants qui souffrent de mille rien et qui, ne se sentant atteints nulle part, sont là de partout. La pluie, formée des brouillards du large, tombe longuement dans la mer. Ainsi la tristesse humaine bruine souvent sur l'immensité de l'amour qui triomphe néanmoins de ces piététrantes douleurs dont les denrées et d'âcretés se mêlent à son infini. Dans ces moments chagrins que l'épistolière se plaît à écrire au Dieu qui est en elle. Sa pensée alors se rapproche si près de la sienne qu'elle croit en sa présence et cette sensation la fait revenir à la joie physique. Elle retrouve dans cette soudaine communion intellectuelle sa verve, sa gaieté, sa malice et jusqu'à son bavardage de pervers, de perruche. C'est en ces moments chagrins que l'épistolière se plaît à écrire au Dieu, lui, qui est en elle. Sa pensée alors se rapproche si près de la sienne qu'elle croit en sa présence et cette sensation la fait revenir à la joie physique. Elle retrouve dans cette soudaine communion intellectuelle sa verve, sa gaieté, sa malice et jusqu'à son bavardage de perruche. Elle se retrouve toute voisine de lui et se repose dans cette causerie écrite qui détend en elle tous les réseaux nerveux. Les plus accès de ses journées, elle lui narre avec une belle humeur de déesse qui passe sans toucher terre. Son style est vif, prompt, coloré, imagé. Il est plein de ses joies et coquettes métaphores qui brillantent si ingénieusement l'écriture des femmes et son aspect extérieur, comme ces ruisseaux dont les ondes légères brunissent en sonorité argentée sur les cailloux qu'elles déplacent. Elle expose quels sont ses rêves pendant ces belles heures assassinées par la séparation. Elle lui murmure ses pensées les plus intimes, ses caprices les plus cachés, ses troubles sensuels, ses involontaires frissons en pensant au retour. Elle est beaucoup plus brave et plus assurée dans sa phrase qu'elle ne le serait par la parole, car sa pudeur demeure à l'écart, et elle se livre toute nue dans l'ombre franche de l'absence, pour qu'il la sente toute tressaillante de sa pensée et ivre de sa vision. « Ne te crois jamais seule, lui écrira-t-elle. Tu es dans mon souvenir, dans mon regard, dans ce que je vois, dans ce que j'entends, ce que je respire. » Et elle terminera sa longue et longue lettre dont les feuillets étendus chercheront sur la table par des mutineries adorables de tendresse comme « Oh, je n'ai plus le temps de t'écrire, mais j'ai mieux à faire. J'ai à penser à toi, à t'aimer, à t'attendre. Ou bien encore, elle terminera son guise d'adieu par quelque chose d'exquis comme ne va pas oublier, mon cher foi, le petit être féminin niché en un coin de ton cœur. Il ne tient pas de place et peut être mêlé à la circulation de tout ton sang, de ton esprit, de tes rêves. Sois câlin pour lui, mon amour. Sois câlin pour la câlinière. Les post-scripta ne sont pas les moins surprenants. La rusée correspondante possède l'art de mettre dans ses lignes négligées, jetées en fin de lettres, comme un résumé de l'épître qui précède. Elle y dépose ces petits termes de mutinerie, taquinerie et interrogatrice, ces doux reproches que la femme s'entend si délicatement à formuler. Elle écrira, avant d'enclore ses feuillets, une espièglerie comme est-ce bien grand, vrai, cette jolie menterie que vous m'aimez, ou bien une phrase qui fait la roue et sourit, telle pas de lettre de toi ce soir, vilain chéri, je vais me coucher en boudant, je puis bien assurer que je suis résolu à ne plus t'aimer avant demain matin. Et parfois le post-scriptum n'est qu'une reprise en finale, comme la dernière assonance d'un baiser. Il me reste toujours quelque chose à vous écrire, aussitôt que je cesse de vous écrire. Écoutez donc cette ultime pensée, parole qui vous dit que je vous aime avec un long comme loin comme d'ici à vous et plus loin encore. Je devrais vous en valoir, vouloir de tant vous aimer, de vous en vous adorer, mais le puis-je? Hélas, si on me le commandait, pourrais-je? Oserais-je obéir? L'amante sait blottir son cœur dans ses lettres comme un oiseau blessé en son nid naturel. Mais sa grâce la sert si bien que ses courriers de tendresse sont rarement moroses ou pesamment tristes. Il y court comme un flot d'enfantillage, il s'y reflète un constant enjouement, éclairant mille sentiments variés qui connaissent, traduisent à l'amour ou qui en dérivent. Moins gêné parfois dans son dur imaginaire que devant la présence de l'amant, elle se laisse aller à jouer comme un jeune chat dans les chevaux longuement dévidés de sa pensée. Elle s'en éloigne, elle y revient, elle si gracieuse, et elle s'y roule avec souplesse, sans aucunement embrouiller les fils. Tout cela avec un goût, un art, une dextérité de toucher, une espièglerie d'allure qui n'appartiennent bien spécialement qu'à son adorable sexe féminin, félin. Lorsque, pour obéir à son machiavélisme nécessaire, l'amante reprend d'user des artifices de la correspondance, lorsqu'il diffère intentionnellement ses réponses, qu'il y insère quelques-unes de ces flèches empoisonnées dont il s'entend à aiguiser la pointe comme celle des chrismalets, la pauvrette retrouve dans l'élément des larmes une éloquence nouvelle, pathétique, saisissante, qui lui fait écrire les mémoires justificatives sans fin. Elle y plaide la cause de son cœur avec une entraînante passion faite pour agiter le remords dans l'âme du coupable et trop perfide amoureux. c'est que la distance double presque les peines et les joies. C'est une puissante exagération qui fait démesurer les troubles des amants. L'imagination est scellée, y espère et y souffre, en dehors de toute raison. La moindre blessure de sentiment s'envenime dans cette sombre absence qui s'aggrave du doute et qui s'avilit par le soupçon. L'expression heureuse ressentie la veille y est vite altérée le lendemain. L'esprit s'y plaît à enlaidir les poésies du cœur, et le cœur y pervertit les plaisirs de l'esprit. De plus, pour la femme, la non-vision de l'être aimé torture ses nerfs et exaspère ses sensations physiques. Tout lui fait mal dans son amour à certaines heures passées loin de lui. Le jour l'aveugle, le vent la raille, le plus léger bruit l'assourdit. Et lorsqu'elle écrit dans ses dispositions, la douleur transmire dans ses phrases, et la désespérance se trahit dans le désarroi de ses mots. Aussi faut-il toute la perspicacité féministe du destinataire pour ne pas accueillir ces lettres brûlantes ou d'effervescentes avec un autre mouvement que celui d'une profonde pitié attendrie. Que n'irait-il pas à écrire, à dire, sur l'influence de la correspondance dans les jeux de l'amour et du célibat, sur la force du style écrit, plus pénétrant encore que le charme du parler, et surtout le parti que la politique de l'amoureux peut habilement tirer des expédients, des insinuations, des stratagèmes que lui fournit la répistolaire dirigé avec à propos. Il est certain que le message sentimental agit tout autrement que la déclaration orale. La lecture retire à la femme la dissimulation de ne vouloir être touchée, l'ironie de la riposte instantanée, la pudeur et la réserve. Elle lui permet de méditer son trouble et de s'y complaire. La lettre attire et gagne sa confiance. Elle la prend, la rejette, puis la saisit de nouveau. Elle arrive à la connaître par cœur, à la tutoyer, car cette page manuscrite finit par prendre possession d'elle-même en intriguant son esprit et en accaparant tous les échos de sa mémoire. On ferait une théorie de la correspondance comme on en a fait tant d'autres sur des sujets moins suggestifs, et l'on peut croire que celui-là fournirait matière à la plus fine, à la plus élégante, à la plus raffinée et à la plus ingénieuse dissertation dont pourrait s'enorgueillir le friand amour-propre d'un métaphysicien analyste. Un des charmes de la correspondance amoureuse réside dans la perdurance de l'intrigue qu'elle entretient, et dans toutes les subterfuges qu'elle réclame de la part des expéditeurs et destinataires. Ici se rencontrent les complications les plus étranges et les moins prévues. Si l'un des deux amants est tenu à de rigoureuses réserves pour une raison de mariage, de famille ou autre, Balzac, qui a écrit un aimable essai sur la police des maris, parle assez complaisamment des difficultés suscitées par l'échange des messages entre un célibataire et sa maîtresse. Écrire une lettre, dit-il, et la faire jeter à la poste, recevoir la réponse, la lire et l'abri brûler, voilà la correspondance réduite à sa plus simple expression. Cependant, examinez quelles immenses ressources La civilisation, l'honneur et l'amour ont mis à la disposition des femmes pour soustraire ces actes matériels à la pénétration de ceux qui l'environnent. La correspondance est un protée. Il y a des encres sympathiques et un jeune célibataire nous a confié avoir écrit une lettre sur la garde blanche d'un livre nouveau qui demandait au libraire pour le mari, par le mari, est arrivé entre les mains de sa maîtresse, prévenue la veille de cette ruse adorable. La correspondance trouve aujourd'hui bien d'autres stratagèmes que ceux signalés par Balzac. L'encre sympathique nous paraît avoir fait son temps, comme le langage des fleurs. Mais il existe une correspondance chiffrée, dont seuls les possesseurs de la clé peuvent interpréter le texte. On a inventé des idiomes javanais, très commodes à retenir pour les réceptions et pour le téléphone. Nous est venu à la même heure que l'espéranto. Et de plus, les journaux ont ouvert des colonnes hospitalières aux amants traqués pour se prévenir à la quatrième page de leur état d'âme et des heures qu'ils sont en souffrance à cet endroit dormait. Il faudrait aujourd'hui être obtus comme une dévote pour ne pas trouver le moyen de canaliser sa présence, sa pensée en toute assurance vers l'être adoré. Les procédés sont si nombreux, les combinaisons si aisées, qu'il n'est pas une ingénue pensionnaire du couvent qui ne connaisse sur le bout du doigt tous les stratagèmes de la petite poste amoureuse. Mais ce qui est bon pour les débutants, les passagers, les simples ou les curieux, ne saurait convenir à de vrais passionnés, désireux de lire à âme ouverte, mieux que par hiéroglyphe ou par mots tronqués. Et ceci ne manque pas de se trouver, loin de la banalité et des postes restantes au guichet indirect, des garanties sérieuses sous le couvert d'armes, de fournisseurs ou mieux encore de concierges, lesquels, sous un nom supposé, acceptent des lettres adressées à un pseudo volontaire, mystérieux inconnu, à ses habiles pour passer les cueillir furtivement à l'une de ses hâtes sorties du jour. Il est sage de brûler les lettres d'amour, mais il est doux de les conserver, de les classer, de les reprendre, de les relire souvent dans la niche de soie parfumée où l'on ne sait plus à les encercueillir. La sensation qu'elles nous donnent à leur arrivée ne saurait être perpétuée. Toutefois, il est bon de songer à la curiosité rétrospective qui nous viendra avec les frimas de la vie. Et nous décidons tous, plutôt malaisément et à contre-cœur, à anéantir les chères expressions vivantes qui souvent survivent aux ardents sentiments qui les ont dictés. Ces échos passionnés des jours de jeunesse, qui sont jours de gloire, comme disait Byron, nous donneront sur le soir du temps, à l'heure crépusculaire où le souvenir s'allume avec mélancolie dans la pénombre de notre esprit, des sensations troublantes, une tristesse attendrie, qui nous permettront de revivre en un passé dont l'image est poétisée encore par l'éloignement, les seules journées où nous avons vraiment vécu, celles où nous avons vraiment aimé.